La voix de l'Amérique, il est 6 heures, temps universel.
Bonjour à tous, Idriss Fall pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition pour l'Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, la campagne se poursuit sur fond de jets de pierre et gaz lacrymogènes. Olusegun Obasanjo est arrivé hier à Dakar pour une mission d'observation et de médiation. Certains opposants sénégalais appellent au report, d'autres battent campagne et d'autres encore appellent au boycott. Les Maliens de la diaspora suivent de près la rébellion Touareg dans leur pays. Sékou Diallo, originaire du Mali, habite à Alma-Ata au Kazakhstan. Il sera notre invité. En Guinée, l'opposition promet de tout faire pour empêcher la tenue des législatives tant que le litige sur la commission électorale ne sera pas réglé. Ici même aux États-Unis, Barack Obama pose aujourd'hui la première pierre pour la construction d'un musée africain-américain à Washington. D'abord le point de l'actualité, Camille Grodiguet.
Bonjour. L'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo est arrivé au Sénégal le mardi soir à la tête d'une mission d'observation conjointe de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il a déclaré que son principal rôle sera d'observer l'élection présidentielle de dimanche, mais qu'il œuvrera également au nom de l'UA et de la CDAO afin d'éviter ce qui est indésirable et non désiré. Son arrivée a coïncidé avec une autre journée de violence dans la capitale sénégalaise, Dakar. La police a dispersé une manifestation de l'opposition avec des gaz lacrymogènes avant que les manifestants ne gagnent le centre-ville. Les forces nigérianes ont renforcé la sécurité dans un marché de la ville de Maïdougouri suite à l'attaque lundi soir par des hommes armés qui ont tué jusqu'à 30 civils. L'armée nigérienne a confirmé que des combats ont eu lieu, mais elle a nié qu'il y ait eu des morts parmi les civils. Elle a déclaré que 8 militants soupçonnés d'appartenir à la secte islamiste Boko Haram ont été tués, mais voilà, un porte-parole du groupe a déclaré qu'aucun de ses membres n'a été tué. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a marqué son 88e anniversaire mardi avec une série d'entretiens durant lesquels il a déclaré qu'il est en bonne santé, qu'il n'a pas l'intention de démissionner bientôt et qu'il va organiser des élections cette année. Le leader zimbabwéen a dit qu'il se porte comme un charme et qu'il n'est pas encore prêt à prendre sa retraite. Il a ajouté qu'à son âge, il peut encore parcourir une certaine distance. L'Europe est sur le point d'intensifier la lutte contre les pirates opérant dans le golfe d'Aden et au large de la Corne de l'Afrique. Anne Robertson.
Selon le secrétaire au Foreign Office, William Hague, Londres financera à hauteur de 870 000 dollars la construction d'un centre de lutte contre la piraterie. Ce centre, chargé de faciliter les poursuites judiciaires contre les pirates, sera basé aux Seychelles et sera dirigé par un Britannique, a précisé le ministre. Il permettra à la communauté internationale de cibler les leaders des réseaux de pirates et de demander des comptes à ceux qui financent et facilitent d'immenses opérations de piraterie, a-t-il ajouté. Le nouveau centre devrait être opérationnel à temps pour la recrudescence saisonnière de la piraterie dans la région. Les Pays-Bas, les Seychelles et Interpol appuieront l'initiative. Selon l'ONG américaine One Earth Future, la piraterie somalienne a coûté à l'économie mondiale près de 7 milliards de dollars l'année dernière. Un rapport publié par la Commission des affaires étrangères du Parlement britannique a établi qu'au cours des 4 dernières années, les pirates somaliens ont reçu des rançons s'élevant à plus de 300 millions de dollars.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Les forces de sécurité syriennes ont tué 63 personnes hier lors d'attaques contre des villages et suite à un barrage de tirs d'artillerie lourde dans la ville de Homs, alors que la Croix-Rouge réclamait des cessez-le-feu pour laisser passer l'aide d'urgence. Selon des militants, au moins 30 personnes sont mortes et plus de 200 ont été blessées lors du bombardement du quartier de Baba Arm à Homs, où les rebelles sont retranchés. L'Observatoire syrien pour les droits de l'homme a dit qu'au moins 33 autres civils ont été tués lorsque les forces gouvernementales ont pris d'assaut des villages de la province septentrionale d'Idlib. Ces chiffres n'ont pas pu être vérifiés indépendamment. Le dépouillement des votes se poursuit au Yémen suite à l'élection présidentielle de mardi à candidat unique qui devait entériner la nomination du vice-président Abed Rabo Mansour Hadi comme nouveau chef de l'État en remplacement de l'ex-président Ali Abdullah Saleh. Selon les autorités, le taux de participation était élevé mardi dans la capitale, Sanaa, et dans plusieurs autres villes ville où les électeurs ont exprimé l'espoir que l'élection prédéterminée de Hadi à la présidence rétablira la stabilité dans le pays. Le premier ministre grec Loukas Papademos estime que son pays a beaucoup de travail à faire avant d'obtenir les 172 milliards de dollars du dernier plan de sauvetage de l'Union européenne et du Fonds monétaire international. Le Parlement grec a accepté en principe le plan présenté par l'UE et le FMI, mais les législateurs doivent maintenant adopter 79 mesures spécifiques pour toucher l'argent qui permettrait à la Grèce d'éviter la faillite. L'Agence internationale de l'énergie atomique affirme que l'Iran a empêché les experts de l'ONU d'inspecter un site militaire iranien et a refusé de coopérer avec eux pour répondre aux allégations selon lesquelles Téhéran cherche à se doter de l'arme nucléaire. Dans un communiqué publié ce matin, l'AIEA indique que la délégation de l'ONU dirigée par Hermanns Nackertz est rentrée à Vienne après 2 jours de pourparlers décevants avec des responsables iraniens à Téhéran. La délégation s'est vue refuser la permission d'inspecter le complexe de Parchin, près de Téhéran, soupçonné d'abriter des installations nucléaires souterraines secrètes. Des paléobotanistes ont mis à jour en Chine une forêt vieille de 300 millions d'années, fossilisée par des centres volcaniques. Comme à Pompéi en Italie, avec l'éruption du Vésuve, une forêt tropicale a été recouverte de cendres volcaniques et conservée avec un très haut degré de détail qui donne un aperçu du paysage à l'époque. Il s'agit essentiellement de fougères et de sortes de conifères.
Merci Camille Grodidier, Le Monde Aujourd'hui, édition pour l'Afrique de l'Ouest. Idriss Fall, depuis le studio 13 de la Voix de l'Amérique à Washington. Au Sénégal, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo est arrivé hier à Dakar pour une mission d'observation des élections et une tentative de médiation. Certains candidats battent campagne, d'autres demandent le retrait pur et simple de la candidature du président sortant, Abdoulaye Wade. Les violences de ces derniers jours ont fait une dizaine de morts à travers le pays et nous sommes à 4 jours du scrutin. Mamadou Sy Albert, journaliste et écrivain à Dakar.
Nous constatons qu'il y a au moins 10 candidats qui ont mené véritablement la campagne pendant ces 3 semaines. Mais de notre côté, il y a 3 ou 4 candidats qui n'ont pas mené de campagne électorale à l'intérieur du pays. Donc globalement, la tendance est que les 10 candidats sont relativement prêts pour aller aux élections le dimanche prochain. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un fond de violence, particulièrement dans la région de Dakar. Si vous prenez la banlieue, le centre-ville de Dakar, Rufisque, un peu des poches dans les régions, il y a effectivement un vent de violence qui souffle sur le Sénégal depuis quelques jours. Il me semble que même la communauté internationale aujourd'hui est favorable à la tenue d'élections démocratiques, à une élection transparente. C'est peut-être là la grosse question, est-ce que cette violence-là va se dérouler le dimanche prochain ou est-ce que les acteurs vont accepter de laisser les Sénégalais choisir démocratiquement le dimanche? Je pense que c'est toute la question qu'on se pose aujourd'hui.
Mais il y a 8 candidats du M23 qui souhaitent que Abdoulaye Wade retire sa candidature.
Voilà, c'est la grande, grande question. Les candidats qui n'ont pas voulu la campagne à l'intérieur du pays sont restés à Dakar. Ils sont en train depuis quelques jours de se radicaliser. Et la proposition qu'il pose, par exemple, le professeur Ibrahim Fall a été très clair. Il propose simplement le report de l'élection présidentielle. Cherban Medjou également propose un report des élections. Idriss Seck également est ferme sur cette question. Il n'entend pas participer à la présidentielle si le président Wade ne retire pas sa candidature. Donc il y a un pôle radical qui propose le report de l'élection présidentielle, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas en tout cas donné un mot fort de boycott du scrutin de dimanche, et ils n'ont pas également décidé de s'opposer à la tenue de l'élection. Peut-être que dans les 2 jours à venir, demain et après-demain, on saura plus clairement ce pôle-là, qu'est-ce qu'il va proposer par rapport au dimanche.
Mamadou Sy Albert, journaliste et écrivain à Dakar, il y a aussi une partie de l'opposition sénégalaise qui depuis longtemps appelle au boycott, estimant que la candidature de Maître Wade est une candidature de trop. Sambakara Ndiaye, président de la Nouvelle Alliance démocratique du Sénégal, NADEM, en sigle, qui signifie qu'il s'en aille en Wolof.
Tout d'abord, permettez-moi de saluer tous les auditeurs de la Voix d'Amérique. au Sénégal aujourd'hui, nous sommes à un pas du chaos parce que ce scrutin représente tous les dangers au Sénégal. Nous, nous avions ANADEM, Nouvelle Alliance Démocratique du Sénégal, appelé au boycott purement et simplement parce que nous savions que la candidature d'Abdoulaye Wade allait être d'une façon favorable reçue par le Conseil constitutionnel. Et nous savions aussi que cette candidature est une forfaiture, c'est une violation de la Constitution. Donc il fallait qu'on s'organise pour une désobéissance civile. Il fallait qu'on puisse informer les populations sur l'enjeu de rester chez eux, de ne pas participer aux élections. Qu'aucun candidat ne dépose un dossier au Conseil constitutionnel comme nous l'avons fait. À ce moment-là, il allait se retrouver tout seul face à son impopularité. Et face au fait qu'il n'atteindra jamais 25% du vote, on a vu le vote des militaires du week-end dernier, ça n'a même pas atteint 15%. Donc aujourd'hui, par contre, nous sommes dans une spirale de violence. Et nous pensons qu'aujourd'hui, la communauté internationale doit sauver cette jeune démocratie qui vient de naître. On a donné sur un plateau d'argent à Abdoulaye Wade la victoire en 2000. Il faut qu'il nous rende notre souveraineté. Et aujourd'hui, ce n'est plus l'affaire de partis politiques, ce n'est plus l'affaire d'opposition ou d'opposants, c'est l'affaire du peuple. La souveraineté est en train d'être reprise par le peuple. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui.
Samba Karandiaï, président de la Nouvelle Alliance Démocratique du Sénégal, NADEM, en sigle.
La Voix de l'Amérique au Sénégal sur Top FM à Dakar et Radio Al-Faïda à Kaolack.
Au Mali, plusieurs partis politiques présents à l'Assemblée nationale ont proposé un plan de sortie de crise face à la rébellion Touareg qui proclame avoir pris contrôle de plusieurs localités depuis le début de ce mouvement le 17 janvier dernier. Des milliers de Maliens ont trouvé refuge dans les pays voisins. Les Maliens de la diaspora suivent de très près ce qui se passe dans le nord du pays. Sékou Diallo est un Malien mais habite Alma-Ata au Kazakhstan.
Le mouvement MLA a été créé l'année passée et quand on le créait, l'un d'entre eux avait été arrêté à Tombouctou lors d'une marche et l'un des cerveaux présumés avait été approché à Bamako. Mais curieusement après, les forces de l'ordre du Mali ont bouclé l'affaire et ils ont laissé continuer. Ces gens qui ont créé cette rébellion pensent que le gouvernement du Mali n'a pas la volonté ou bien la capacité de combattre la rébellion. Dès qu'il y a rébellion, le gouvernement malien propose le dialogue. Par dialogue, qu'on donne des millions, sinon même des milliards aux rebelles pour le maintien de la paix au nord du Mali. Ceux qui ont fondé ce mouvement espéraient eux aussi gagner leur part du gâteau, croyant qu'à la veille des élections, le gouvernement du Mali sera obligé de leur proposer de l'argent afin que le calme soit maintenu et que les votes se passent dans le calme. La rébellion sont en petits groupes qui attaquent et qui disparaissent.
Ils ont pris plusieurs localités.
Concernant ce problème, il y a trop de points qui sont sombres. Parce que quand ils ont commencé, curieusement, l'armée malienne a reculé aussi, a déserté certaines villes, laissé certains camps militaires aux rebelles. On ne sait pas pourquoi.
Comment expliquez-vous que Amadou Toumani Touré ait reçu ceux qui sont revenus de Libye peu avant le début de la rébellion?
Ces gens peuvent être des Maliens, des ex-combattants de Kadhafi. Ce qui est étonnant, c'est que le Mali n'a pas de frontière commune avec la Libye. Ils ont dû traverser ou bien l'Algérie ou bien le Niger. Comment sait-il que ni en Algérie ni au Niger, ces gens n'aient pas pu être désarmés? Ils sont arrivés au Mali avec tout leur armement. Maintenant, quand ils sont arrivés au Mali, le gouvernement du Mali devait du moins leur proposer de désarmer. Mais au lieu de cela, le gouvernement est allé les accueillir avec des millions, avec des tonnes de riz et puis avec des dates. Ça, c'est la plus grande erreur que notre gouvernement a commise.
Si on ne peut pas dialoguer et aussi la solution militaire n'est pas possible, quelle solution alors?
Depuis l'indépendance, le Mali est confronté à ces problèmes de rébellion Touareg. En 91-92, ça avait éclaté encore. On avait signé les accords d'Alger, le pacte national. Aujourd'hui, ces accords d'Alger et le pacte national sont à la base de tous les problèmes qui existent jusqu'à présent au nord. Dans le passé, on n'a pas résolu le problème. On l'a seulement repoussé. Ce sont les successeurs qui doivent arriver à Koulouba au pouvoir qui feront face à ce problème-là. Que ça fait déjà 20 ans, chaque fois que nous dialoguons, et le prix de la paix, c'est de l'argent qu'ils demandent, c'est des grades de complaisance qu'ils demandent. Ils demandent d'être réintégrés dans l'armée malienne après l'avoir déserté et redéserté encore une fois. Après, on les voit à Bamako dans des villas luxueuses, on les voit au volant donc de grosses cylindrées, mais on ne voit jamais un seul de ces rebelles s'occuper d'un projet de développement au nord du Mali. Maintenant, nous n'avons plus le choix. Nous devons combattre de façon effective cette rébellion une fois pour toutes. Cette rébellion existe au Mali seulement pour soutirer de l'argent permanemment. Ces rebelles ont l'envie de vivre sur le dos du peuple malien et ne pas travailler. Ça, c'est mon avis personnel.
Serkou Diallo, un Malien qui habite à Alma-Ata, au Kazakhstan. En Guinée, l'opposition promet d'empêcher la tenue des élections législatives en mai prochain. Le gouvernement a déjà annoncé que ce scrutin aura lieu avec ou sans l'opposition. Le dialogue politique comme un dialogue de sourds a pris fin sans permettre d'arriver à un consensus. Au micro de Jacques Aristide, voici le docteur Faya Milimouno, porte-parole du collectif des partis d'opposition.
Cette déclaration convient, on ne peut plus clairement, l'opinion nationale et internationale sur le fait que le gouvernement du professeur Alpha Condé avait déjà en place un plan. Avant même que les résultats de ces journées de dialogue ne soient connus, déjà, le gouvernement annonce ses couleurs en parlant d'élections en mai avec ou sans l'opposition. Ça vient corroborer les déclarations antérieures qui nous rappellent presque quotidiennement maintenant à Conakry qu'il y a eu des élections législatives au Gabon, en Côte d'Ivoire. L'opposition n'a pas participé et donc l'opposition, qu'elle participe ou pas en Guinée, le ciel ne tombera pas. Je trouve que c'est très décevant. Au moment où nous avons reçu du président Barack Obama des États-Unis des conseils sages de travailler à la construction des institutions fortes et non des hommes forts, eh bien, nous avons une preuve encore claire que le gouvernement du professeur Condé cherche coûte que coûte à écarter l'opposition des prochaines consultations électorales.
Mais le gouvernement affirme que tout est prêt et que le peuple guinéen a assez attendu pour en finir avec la transition démocratique.
Si le ministre de l'Administration du Territoire rappelle que le peuple est fatigué, la question qu'il faut se poser, c'est qui a fatigué le peuple de Guinée?
Que compte faire l'opposition?
Eh bien, maintenant que M. Alassane Condé nous a aidé à faire comprendre à la communauté internationale que ce qui se prépare en Guinée ne sera pas juste, ne sera pas transparent et ne sera pas crédible, nous ne boycotterons pas les élections. Mais nous ne permettrons pas des élections qui vont mettre en péril la paix sociale dans notre pays. L'instabilité coûtera plus cher au peuple de Guinée qu'une élection non organisée. Nous travaillerons avec le peuple de Guinée à empêcher qu'on nous conduise vers une situation d'instabilité.
En d'autres mots, qu'est-ce que cela veut dire, Faya Milimouno?
Dans les jours qui vont suivre, juste comme nous l'avons fait il y a une semaine, quand l'opposition a demandé aux Guinéens d'observer une ville morte sur toute l'étendue du territoire, nous allons utiliser tous les moyens pacifiques, mais tous les moyens légaux pour empêcher qu'on organise des élections.
Est-ce que cela veut dire que l'opposition compte organiser des manifestations à travers le pays?
Tout à fait. Nous organiserons des marches pacifiques, nous organiserons des caravanes à l'intérieur du pays, nous organiserons des meetings pour prendre à témoin et surtout amener le peuple de Guinée à barrer la route à une nouvelle dictature à retour de Guinée.
Le docteur Faya Milimouno, porte-parole du collectif des partis d'opposition guinéen.
L'ami Agritli avec vous ce jeudi dans Washington Forum, les Africains qui réussissent avec brio dans les économies occidentales. Leur parcours, leur combat, les leçons qu'ils et elles ont tirées de leur expérience à l'étranger. Venez écouter leurs histoires et surtout, dites-nous si vous pensez que le succès est beaucoup plus facile en Occident qu'au pays et pourquoi. Merci de réagir sur le Facebook de Washington Forum et rendez-vous jeudi 19h PU sur la VOA.
L'UNICEF tire la sonnette d'alarme dans le Sahel. Elle avertit qu'un million d'enfants en bas âge dans 8 pays africains souffriront cette année de malnutrition aiguë, sévère et risquent de mourir ou connaître des maladies chroniques. L'agence dit avoir besoin de 67 millions de dollars pour fournir d'urgence des aliments thérapeutiques à ces enfants vulnérables. Le point Nathalie Barge.
Les Nations Unies estiment que la sécheresse et les pénuries alimentaires menacent la vie de quelque 23 millions de personnes dans les pays du Sahel. et les enfants en bas âge restent les plus vulnérables. Marixi Mercado, porte-parole de l'UNICEF.
Malnutrition contributes to around 35% of under 5 child deaths around the world.
La malnutrition est la cause de la mort de quelque 35% des enfants âgés de moins de 5 ans. Le risque, de toute évidence, avec cette crise, est que son impact deviendra plus grave encore et que beaucoup d'autres enfants mourront et tomberont malades. C'est que la malnutrition aggravée par la maladie est potentiellement fatale pour les enfants, explique Marixi Mercado de l'UNICEF. Le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Sénégal et aussi le Cameroun ont connu des périodes de sécheresse prolongées ainsi que des pénuries de vivres au cours de ces dernières décennies. On prédit que la crise actuelle sera l'une des pires dans la région. L'UNICEF estime que les taux de malnutrition sont au moins de 10% dans tous ces pays, à l'exception du Cameroun, et il lui faut presque 9 millions de tonnes d'aliments thérapeutiques. Il s'agit là d'une quantité suffisante pour traiter quelque 650 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère. Selon l'UNICEF, le Niger a produit localement assez de cette nourriture spéciale pour traiter tous les 330 000 enfants en bas âge concernés dans ce pays. Marixi Mercado de l'UNICEF estime qu'il est encore temps d'éviter la catastrophe, mais pour cela son agence a besoin d'argent. Elle n'a reçu jusqu'ici que 9 millions sur les 120 millions de dollars requis pour ses opérations au Sahel cette année. Et de ce total, 67 millions sont nécessaires pour l'achat des aliments thérapeutiques. S'il y a du retard, explique-t-elle encore, l'UNICEF devra envoyer ses secours par air plutôt que par mer, ce qui représentera une grande différence dans les coûts de transport, 350 000 dollars pour 100 tonnes par avion et 13 000 dollars pour la même quantité par bateau.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
I feel a big change are going to be made.
Ici même aux États-Unis, Barack Obama doit procéder aujourd'hui à la pose de la première pierre vers la construction du premier musée africain-américain sur le Mall, la grande esplanade au cœur de Washington. Lorenzo Morris enseigne les sciences politiques à l'Université Howard, ici même à Washington.
Il est très très important parce que ça représente la première fois depuis la fin de l'esclavage que le gouvernement fédéral fait un effort pour établir et financer un symbole de l'importance des Noirs américains dans l'histoire du pays. Ce symbole sera placé dans le centre du pays, dans la capitale.
On a mis beaucoup de temps pour que les Africains-Américains aient leur propre musée à eux.
Oui, ça a pris beaucoup de temps parce que normalement, dans l'histoire de création des musées américains, exige un partenariat entre le secteur public et privé. Le financement a commencé avec le fondement des deux côtés, mais pour gagner l'argent nécessaire, il fallait que le Congrès apporte son approbation, mais il fallait aussi que le secteur privé soit encouragé à donner de l'argent.
Avoir un musée, est-ce que ça signifie qu'il y a eu un changement pour les conditions des Noirs ici même aux États-Unis?
Pas vraiment. Ça signifie le progrès continu depuis évidemment le droit civique, mais qui a pris un bond en avant avec l'élection du président Barack Obama. Mais au même temps, si on regarde de près, il y a un peu de racisme dans les campagnes. Sur le côté républicain, il n'y a que très très peu des électeurs noirs. 90 ou 95% des électeurs noirs sont sur le côté démocrate. Alors ça donne l'impression que l'un des partis n'est pas assez ouvert aux électeurs noirs.
Maintenant, on a la statue Martin Luther King, non loin de celle d'Abraham Lincoln, et maintenant avoir un musée des Noirs.
Il ne faut pas oublier que la statue de Martin Luther King est financée presque uniquement par le secteur privé. Tout ce qui était donné par le gouvernement, c'était la place.
Est-ce que vous pensez que cela va aider à redonner aux Noirs leur véritable place dans l'histoire des États-Unis?
Oui, bien sûr, ça va augmenter l'image, encourager les Blancs aussi à regarder plus ouvertement leur histoire et leur le rôle des minorités et le rôle des Noirs dans le développement du pays. Il faut que chacun des groupes ethniques dans nos pays ait des symboles sur la place nationale pour que tout le pays prenne conscience dans le développement de notre histoire.
Il y a beaucoup de Noirs qui disent que les États-Unis devraient présenter leurs excuses pour l'esclavage et même d'autres qui parlent de réparation.
La question des réparations est devenue de moins en moins importante. Il n'y a qu'une très petite minorité, mais pour le reste, il y a une question importante. On n'a pas encore, même avec la création de ce musée, reconnu la culpabilité du gouvernement dans l'esclavage. Il n'y a pas de musée national de l'esclavage non plus. Il y aura évidemment une histoire des symboles de l'esclavage dans le nouveau musée, mais pour la plupart des gens, ils veulent aussi avoir un musée spécial uniquement créé pour reconnaître l'histoire de l'esclavage dans notre pays.
Lorenzo Morris enseigne les sciences politiques à l'Université Howard, ici même à Washington. Le Monde aujourd'hui, édition pour l'Afrique de l'Ouest, La Page Sport avec Camille Grodidier.
Championnat nord-américain de basketball, la NBA, les Pacers d'Indiana ont battu les Hornets de New Orleans par 117-108. Victoire de justesse des Cavaliers de Cleveland sur les Pistons de Detroit. Il s'en est fallu d'un seul point puisque le score était 101-100. Triomphe du Heat de Miami sur les Kings de Sacramento par 120-108. Et finalement, les Philadelphia 76ers se sont inclinés face aux Memphis Grizzlies 89-76. Football européen avec le 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid a été tenu en échec sur le terrain du CSKA Moscou 1-1 après avoir mené au score jusque dans les dernières secondes du match hier. Et puis en Italie, Naples a dominé Chelsea par 3-1. Les deux derniers 8e de finale aller ont lieu aujourd'hui avec à l'affiche le déplacement de l'Inter Milan à Marseille pour y affronter l'OM et la rencontre entre le FC Bâle et le Bayern Munich en Suisse. Formule 1 avec les essais de Jerez en Espagne. Mercedes et Lotus sont très en vue cette semaine. Après avoir laissé filtrer un clip la semaine dernière, Mercedes a entièrement dévoilé sa W03 mardi à Montmeló, juste avant 4 jours de test sur le circuit catalan. Michael Schumacher a qualifié le ressenti de la W03 de très bon. Par contre, Lotus a dû se résigner à ne pas reprendre ses essais hier après 7 tours de Romain Grosjean. Le châssis E20-02, dont c'était le tout premier roulage, a connu des problèmes. Le Français attend maintenant l'arrivée du châssis 01 pour rouler à nouveau en Catalogne aujourd'hui.
Merci Camille Grodidier, vous resterez avec nous juste avant de nous séparer pour le rappel des titres.
L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo est arrivé au Sénégal mardi soir à la tête d'une mission d'observation conjointe de l'Union africaine et de la CDAO. Il a déclaré que son principal rôle sera d'observer l'élection présidentielle de dimanche. Les forces nigérianes ont renforcé la sécurité dans le marché de la ville de Maiduguri suite à l'attaque lundi soir par des hommes armés qui ont tué jusqu'à 30 civils. Les forces de sécurité syriennes ont tué 63 personnes hier lors d'attaques contre des villages et suite à un barrage de tirs d'artillerie lourde dans la ville de Homs, alors que la Croix-Rouge réclamait des cessez-le-feu pour laisser passer l'aide d'urgence. Le dépouillement des votes se poursuit au Yémen suite à l'élection présidentielle de mardi à candidat unique qui devrait entériner la nomination du vice-président Abed Rabo Mansour Hadi comme nouveau chef de l'État en remplacement de l'ex-président Ali Abdullah Saleh. Le premier ministre grec, Loukas Papademos, estime que son pays a beaucoup de travail à faire avant d'obtenir les 172 milliards de dollars du dernier plan de sauvetage de l'Union européenne et du Fonds monétaire international.
C'est la fin de cette édition. Le suivi de l'actualité a été assuré par Camille Grodidier, Anne Albertson à la mise en onde, Idriss Fall à la présentation. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt sur La Voix de l'Amérique.
Notre émission est maintenant terminée. Nous diffusons tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU. Ici Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.